Bienvenue dans la quatrième émission du podcast de la librairie La Bande Dessinée à la Croix-Rousse. Du coup, toujours dans le quatrième, toujours aux 50 grandes rues de la Croix-Rousse. Vous pouvez toujours retrouver toutes les infos de la librairie à www.labd.net et pour les commandes en ligne, ça se passe à www.labd.info. Ce soir, je suis en charmante compagnie et ce soir, ça va être sur l'amitié. C'est-à-dire que ce soir, on a des libraires que vous avez déjà entendus, mais en plus, on va avoir des guests. On va notamment avoir Alex, qui n'est pas totalement un inconnu non plus, parce qu'il n'est pas libraire à la BD, mais il a travaillé à la librairie La Bande Dessinée, et maintenant il est libraire à Gibert. Du coup, ça fait plaisir, sur le thème de l'amitié, d'inviter des copains, quoi. Donc voilà, en gros...
Salut Alex.
Ah oui, c'est vrai qu'on le rencontre en direct. Salut Alex.
Hey.
Comment ça va?
Hey.
Pour introduire justement tout ça, pour donner une définition assez brève de l'amitié...
Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.
Voilà, donc vous l'aurez reconnu, c'est Edouard Baird dans Astérix Obélix, mais je trouvais que ça marche quand même toujours assez bien.
Moi, si je peux citer aussi Henri Gara.
À part, à bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car, à bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Une main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins.
Et du coup, on va tout de suite commencer avec Alex qui va nous présenter le premier album de ce soir.
Alors, pour illustrer au mieux l'amitié, j'ai choisi de présenter une des BD qui m'a fait le plus marrer ces dernières années. On y suit les 400 coups de trois copains inséparables. Je vais vous parler des Cavaliers de l'Apocalypse de Libon. Du coup, on y suit Ludo, au caractère affirmé, meneur de file, aux idées plus génialement absurdes et dangereuses les unes que les autres. Jay, c'est un peu le Kenny de la bande qui va prendre très cher très régulièrement. Et Olive, le froussard, qui ne sait toujours pas pourquoi il s'est embarqué là-dedans. Tous les trois sont prêts à faire l'école buissonnière à peu près à la moindre occasion, et ils vont se retrouver embarqués dans des aventures plus loufoques et dangereuses les unes que les autres, dans un monde où l'absurdité n'a pas de limite. Si vous voyez une usine de recyclage de sardines ou une mamie qui fait la confiture d'enfants, c'est normal. Que ce soit pour demander les règles du foot des sorciers à la sorcière de la forêt, une sortie au musée ou une simple balade en forêt, rien ne va se passer comme prévu pour notre plus grand plaisir. On est en plein dans la loi de Murphy où tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Nos trois amis n'ont aucune limite, dessiner un zizi sur l'oreille de la Joconde, faire du toboggan sur une falaise, pirater le repas de Noël de la cantine. Toute idée est une bonne idée. Libon s'éclate, et ça se sent. Maître de l'humour absurde, on ressent l'esprit de Jacques le petit lézard géant, autre pépite du genre que je conseille fortement. Son dessin d'apparence simple lui permet de faire vivre ses personnages de manière ultra expressive, et l'on se prend à pouffer juste devant leur tête. Il se donne aucune limite et n'hésite pas à maltraiter ses personnages, pansements, coupures, plâtre, son monnaie courante en fin d'aventure. Que ce soit le rythme ou la mise en scène, tout sert à renforcer l'humour et vise juste, le tout magnifié par des dialogues sans queue ni tête qui font mouche à coup sûr. Chaque histoire fait entre 4 et 6 pages, les situations s'enchaînent sans véritable lien entre elles, mis à part nos trois comparses. D'abord paru dans le journal de Spirou dès 2019, Les Cavaliers de l'Apocalypse compte aujourd'hui 3 volumes, de quoi débrancher votre cerveau et apporter une bonne dose de fun à votre été.
Bah du coup, merci beaucoup Alex. Alors, pour revenir vite fait sur ce qu'a fait Libon avant, donc Libon, c'est pas un tout nouveau en fait dans les BD humoristiques, il en a fait pas mal. Alors, il a fait notamment les Animal Lecteurs avec...
Sergio Salma.
Sergio Salma, évidemment.
C'est lui à qui on devait déjà les aventures de Nathalie.
Il a notamment fait Jacques le Lézard.
C'est très drôle aussi.
Qui a un lézard à parole et qui essaye de mener sa vie tant bien que mal tranquillement. Mais c'est un lézard d'1m30 qui parle, du coup c'est tout de suite un peu plus compliqué.
Pour info, il a fait aussi Tralaland.
Pour les enfants,
ouais. Et puis
Hector Canon, ouais, qui était bien aussi.
Pour les adultes,
qui était vraiment drôle. Le conseil très gentil.
Et du coup, deuxième album qui est souvent aussi estampillé un peu jeunesse, mais on va voir que déjà là, il y a une petite nuance qui est apportée, et c'est Quentin qui va nous présenter le deuxième album.
Alors moi, je vais vous présenter donc Les Nombrils, qui, comme d'ailleurs Les Cavaliers d'Apocalypse, est prépublié dans Spirou, qui cette fois-ci n'est pas belge ni français, mais québécois, et qui va raconter la relation entre trois jeunes adolescentes, on va dire, du moins au début de la bande dessinée, qui sont dans une sorte de lycée, alors lycée à l'américaine, ou du moins à la canadienne un petit peu, puisque ça semble être un peu différent de chez nous. Donc les personnages principaux sont Karine, qui est l'héroïne, qui est une grande blonde, qui fait assez peu attention à son physique, ou du moins moins que les deux autres personnages principaux, que sont Vicky, donc qui est une jeune métisse extrêmement jolie, qui est considérée comme la deuxième plus belle fille de son lycée, qui fait toujours très attention à elle, etc., qui est assez intelligente, semble-t-il, mais qui est aussi parfois un petit peu cruelle, et Jenny, qui elle est rousse, et qui est considérée, elle, comme la plus belle fille de son lycée, et qui, par contre, a la particularité de manquer parfois un peu d'intelligence, ou de ne pas être toujours très maligne. Et c'est la relation entre ces trois personnages, qui s'appellent, donc la BD s'appelle Les Nombrils, puisque ces trois filles ont la particularité, c'est les seules dans la BD, à avoir le nombril découvert, donc c'est un petit peu le petit truc qui les relie, et donc leur amitié. Et la particularité de l'amitié entre ces trois personnages, c'est qu'elle est assez vacharde, c'est-à-dire que les deux filles, donc Vicky et Jenny, ont tendance à faire pas mal de vacheries, il y a carrément un album qui s'appelle Les Vacheries, à la pauvre Karine qui va subir ça pendant quelques temps. La particularité des albums aussi, c'est que les premiers, du moins les quatre premiers albums, il me semble, étaient une succession de blagues, mais qui avaient quand même un fil conducteur, une histoire. À partir du cinquième tome, l'histoire se densifie pas mal, et on va passer en fait, ces personnages qui étaient plutôt humoristiques, etc., vont grandir, vont évoluer, et leur histoire d'amitié va se complexifier de plus en plus, et d'autres personnages vont entrer dans cette série et vont la rendre un peu plus adulte par certains aspects, bien qu'elle puisse être continuée à lire par des jeunes adolescentes. Et on va avoir beaucoup de questions posées de société, alors on a pas mal de choses sur la confiance, principalement, sur la confiance en soi aussi, sur l'orientation qu'on peut avoir à certains moments sur la sexualité ou sur d'autres choses même. Ils abordent la criminalité aussi, la drogue, ils abordent en fait beaucoup de thèmes adolescents et qui marchent plutôt bien, l'abandon aussi pas mal, la pauvreté, en fait, j'ai pas pensé à en parler, un truc que j'aime beaucoup, c'est que Vicky vient d'une famille extrêmement aisée, bourgeoise, alors que sa meilleure amie est Ginny, on apprend très vite qu'en fait elle vient d'une famille hyper pauvre, et il y a beaucoup de confrontations qui se font par rapport à ça, mais il y a plein de thèmes comme ça abordés.
Le culte du corps en particulier.
Aussi, carrément, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais oui.
Le personnage de Vicky subit une énorme pression familiale pour être jolie, pour correspondre
aux
archétypes qu'ont imaginé ses parents. Même s'il y a de la cruauté, etc., on a des personnages qui sont parfois vachards les uns avec les autres. Mais voilà, en fait, c'est des gens qui ont tous aussi une dimension, une profondeur.
Et c'est une série qui, malgré des apparences humoristiques, s'avère être beaucoup plus porteuse de messages, et de messages un peu forts, et qui, je trouve, parfois sont très bien amenés, et bien mieux amenés, que quelque chose qui arrive frontalement. Et on passe donc d'une bande dessinée qui, pour les premiers tomes, est extrêmement humoristique et assez légère, à des tomes qui sont vraiment impactants dans ce qu'on lit, et on a vraiment envie de savoir ce que deviennent ces fameux personnages, et ce que deviennent leur amitié, puisque c'est une amitié qui est difficile, et qui évolue sur tout le long de la BD. Elle se déchire, elle s'aime, elle s'adore, elle se rejette parfois, et voilà, ça reste une série que j'avais lue à la base en étant convaincu que c'était quelque chose plutôt pour la jeunesse, etc. Et je l'ai relu encore il y a peu, alors je la conseillerais peut-être moins, comme je le faisais avant, à vraiment de jeunes personnes, puisqu'il y a quand même des thématiques abordées, notamment au travers de la sexualité, etc., qui sont assez frontales, mais par contre jeunes ados, pourquoi pas, et même en tant qu'adulte, c'est une série qui se lit très bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Les Nombrils, c'est une série qui m'avait marqué à l'époque et qui encore maintenant me marque, et j'attends la suite, puisqu'on a plus de tomes depuis 2018, et on ne sait pas où vont encore nos personnages, donc voilà.
C'est-à-dire qu'on est face à des personnages qui évoluent et qui, en grandissant, en même temps que leur lectorat, vont aussi avoir des problèmes et des expériences qui vont être celles de leur âge.
Contrairement à un Cédric qui a le même âge depuis toujours et qui vit plus ou moins toujours la même chose.
Ou un Bart Simpson, imagine.
Enfermé dans son âge.
Comme tu disais pour Lou, typiquement le dernier Lou qui est sorti, alors il est renuméroté numéro 1 Sonyata, mais c'est clairement plus une BD pour des petites filles de 10 ans, parce que là, les problématiques du personnage sont des problématiques de jeunes femmes. Donc voilà. Du coup, on va passer au troisième d'entre nous. Alors là, je préfère vous dire, on va déjà changer un petit peu de ton. C'est fini de se marrer.
La galéjade, c'est terminé.
C'est juste pour mettre un peu la pression.
Alors
j'avais la jambe-poche, c'est terminé. Et là, j'en ai une pour introduire la BD que va nous présenter Vincent. C'est.
Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Nous étions comme des frères. Je t'aimais, Anakin.
Alors oui, donc je m'en excuse, hein, je vais me détacher un petit peu de ces deux premières BD très humoristiques pour parler de Mon Traître. Alors, je me démarque un peu des classiques relations amicales historiques, celles qui font naître des amitiés en puissance à l'aube de l'enfance et qui se perdurent à travers les âges. Je me décale des amitiés de cœur qui créent ce lien unique entre les personnes qui savent qu'en toutes circonstances, l'autre sera présent dans la joie et les difficultés. Non, l'amitié que j'ai choisie, moi, elle est décentrée de tout ça. C'est l'amitié pour une cause qui se personnifie. C'est une amitié qui se crée dans l'adversité, celle qui allume une étincelle dans le regard des plus jeunes quand ils regardent leurs aînés. Cette amitié naît d'une simple rencontre fortuite et qui change toute une vie. J'ai donc choisi Mon Traître, de Pierre Alary. Récit autobiographique adapté d'un roman de Sorge Chalandon, où il change les noms et les professions des personnages. Mon Traître, donc, ça se passe essentiellement à Belfast, Irlande du Nord, rattachée à la couronne de Grande-Bretagne et ses loyalistes, et dont un groupe armé que tout le monde connaît, l'IRA, lutte pour leur indépendance et leur liberté. Alors détachons-nous rapidement de tout sentiment de cause, de tort, de raison, de terrorisme, ceci, cela, pour privation de liberté. On n'est pas dans un cours d'histoire, on va parler BD. Antoine est un luthier parisien qui, lors d'un voyage, découvre Belfast et sa grisaille, ses barbelés, ses tensions politiques. Fasciné par sa culture, ses paysages et par la chaleur des gens, il se prend très vite d'amour pour l'Irlande. Il rencontre des habitants qui deviendront plus tard ses amis. Tous font partie du mouvement républicain et mènent comme ils le peuvent quelques actions. Au fil des contacts, Antoine y rencontre Tyrone Meehan, un éminent leader du mouvement républicain. Et dès la première rencontre, naît entre ce jeune passionné et le vieux briscard du mouvement une amitié forte, puissante. Tellement passionné par ce pays et par ce personnage emblématique et charismatique, Antoine finit par prendre part aux actions de l'IRA. Jusqu'au jour où éclate la révélation honteuse, je ne divulgâche rien du tout, parce qu'on l'apprend dès le début de l'histoire, mais pendant 25 ans, Tyrone, le guide, le mentor, l'ami, est en fait à la solde des Anglais. Le monde s'écroule pour Antoine, pour les membres de l'IRA et pour nous, lecteurs. Nous devons comprendre. Pourquoi cette trahison? Comment peut-on faire ça à une cause dont les membres nous sont si proches, nos amis? Le titre lui-même nous tend vers cette amitié qui s'effondre. Il ne dit pas « le traître », mais « mon traître ». Si le déroulé de l'histoire nous tient en haleine, tout ne sera pas expliqué dans cet album. En effet, Sorge Chalandon a écrit un autre roman qui fait suite à celui-là et qui est également adapté par Pierre Alary en BD. Retour à Kidibegs. Et cette fois-ci, centré sur le traître, son histoire de combat en désillusion. Donc comme je le disais, ce récit, c'est l'œuvre de Pierre Alary, pour moi un immense scénariste et un immense dessinateur dans la bande dessinée, qui est aussi connu pour la série Silas Corret. Il a fait une adaptation de Moby Dick avec une petite dédicace à notre ami Olivier Jouvray, qui l'a scénarisé. Ou encore dernièrement, pour Don Vega, une revisite du mythe de Zorro.
Merci beaucoup, Vincent.
Désolé pour cette amitié un petit peu différente, hein, du coup.
Non, non, mais c'est...
Il fallait que je place à un moment donné un Pierre Alary, tellement j'aime cette autre.
Non, et puis...
C'est très bonne BD.
C'est vrai que nous, on présente des petits Mickey, c'est bien.
Ça va, Spirou, c'est sympa, 5 minutes.
C'est bien que quelqu'un parle de vraie littérature. C'est
adulte,
quoi. Oh, mince, moi, j'ai choisi un manga, qu'est-ce qu'on va dire après?
Putain, bah, on fera avec. Pour revenir sur cet album, petite anecdote vraiment du terroir. Il y a en 2014, Emmanuel Mérieux, qui a fait une adaptation, qui était notamment installé au Théâtre de la Croix-Rousse pendant pas mal de temps, des deux récits. Dans une même pièce, il y avait Mon Traître et Retour à Kidibegs. Et en fait, il jouait à la fois la découverte de la traîtrise et le second récit, Retour à Kidibegs, qui donne la voix à ce traître. Emmanuel Mérieux, c'est juste pour anecdote, alors bon, il est metteur en scène, acteur de théâtre, et il a quand même une grosse carrière, mais des fois on connaît plus sa tête, alors moi j'ai reconnu comme ça, en fait c'est Appius Manilius dans Kaamelott saison 6.
Oh,
voilà,
c'est
lui,
Emmanuel, dans Kaamelott.
D'accord. Il joue dans Kaamelott. Ouais,
c'est des lyonnais, de toute façon.
Bien plus c'est pièce de théâtre. Ouais, je suis désolé, moi je connaissais sa présence dans Kaamelott, et quand j'ai vu ce qu'il a fait, je fais, ah oui, donc le gars il a une immense carrière.
Tu t'es pas dit, tiens, c'est marrant, dans Kaamelott, il y en a un,
il joue vraiment bien.
C'est vrai qu'il joue bien, c'est le meilleur ami d'Arthur.
On pourrait parler de la couverture, qui est quand même toujours, à chaque fois dans les podcasts, je me permets de choisir des BD où je suis fan de la couverture. Là, on a une espèce d'impression de pluie avec le traître qui est en fond derrière la vitre. Moi, elle m'a rendu dingue, cette couverture. J'ai acheté le livre avant de savoir de quoi ça parlait.
Pour préparer l'émission, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'avais regardé, il y avait des petites chroniques sur YouTube d'interviews croisées, en fait, entre Chalandon et Pierre Alary, qui présentaient, en fait, l'album. Et Pierre Alary disait qu'il y avait la couverture, c'était un truc qui lui prenait énormément de temps, il faisait énormément de recherches, sauf là. Il a dit, là j'ai eu l'idée, j'ai demandé, il en a parlé un petit peu avec Chalandon, parce qu'ils avaient tout le temps des échanges sur la BD. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que cette adaptation mise en image, ça lui a permis vraiment de prendre de la distance. Donc en fait, il trouvait que c'était assez chouette le travail qu'a fait Pierre Allary, parce que c'était assez fidèle à ce qu'il avait écrit. Par contre, lui, ça lui permettait de voir l'histoire différemment, en fait. C'était assez...
C'est bien tiré d'une histoire, vrai, du coup.
Ah ouais, c'est tiré d'une histoire. Ouais. Ah, et bah du coup, le Antoine, en fait, c'est Serge. Et le Tyrone Meehan, en fait, c'est Dennis Donaldson, le vrai nom du personnage.
Du coup, on sait ce que dans l'histoire est advenu pour de vrai, ou pas du tout?
Il faut lire le deuxième, en fait. Ouais, il faut lire Retour à Killybegs, ou Killybegs étant la ville natale de ce fameux traître, en fait, où il y retourne.
Et bien du coup, merci beaucoup Vincent. Là, on va passer au quatrième.
Donc, je vais vous présenter, moi, un manga qui fait partie maintenant des grands classiques du manga en France. Hein. Il s'agit de 20th Century Boys, de Naoki Urasawa, qui est réédité en ce moment par Panini dans une nouvelle édition. De gros pavés, mais magnifique. Alors, l'histoire de 20th Century Boys, c'est un petit peu une série à tiroir. Elle va se passer sur trois époques. Et on va passer très rapidement d'une époque à l'autre, rebondir quasiment d'une époque à l'autre. Donc ça va se passer tout d'abord à la toute fin des années 90, puis dans les années 70, et également dans un futur proche et indéterminé. On va suivre l'histoire de Kenji. Kenji, c'est un gars qui en gros a pas de chance, puisqu'il bosse dans un combini, donc qui est une épicerie qui est ouverte 24 heures sur 24. Il bosse avec sa mère, qui est une dame pas franchement sympa, enfin en tout cas pas facile à vivre. Et en plus, il a la garde de sa nièce, que sa sœur lui a confiée un jour, avant de disparaître complètement de la circulation. Et l'histoire commence au moment où Kenji va voir autour de lui ce qui nous arrive, nous, quotidiennement, à savoir un certain nombre de faits divers. Et là, quelque chose va le frapper, c'est que parmi tous ces faits divers qui vont animer l'actualité, il y en a un qui va avoir comme sorte de symbole de ralliement un signe. Qui est en fait un doigt pointé vers le ciel, traversé par un grand œil. Ce signe-là lui dit quelque chose. Il lui dit quelque chose et très vite il va comprendre qu'il y a une bonne raison pour laquelle ce signe lui dit quelque chose, c'est qu'il est lié en fait à l'histoire de son enfance. Il va réaliser que les événements qui sont en train de se produire petit à petit autour de lui sont en fait tous liés à un scénario que ses amis et lui avaient écrit alors qu'ils étaient enfants. Le problème, c'est que quand ils étaient enfants, ils jouaient à sauver le monde et pour ça, ils avaient imaginé voilà, toute une série de catastrophes, mais ils imaginaient que plus tard, ils seraient des héros. Et aujourd'hui, alors que ces catastrophes sont en train de se produire, telles qu'elles avaient été écrites dans ce fameux livre, ils réalisent qu'ils sont tout sauf des héros. Et pourtant, c'est peut-être bien pour eux, pour lui en tout cas, et pour ses amis, qu'il va devoir réunir le moment de sauver le monde. Je vais juste lire un petit extrait de 20th Century Boys pour vous donner un petit peu l'ambiance. Là, c'est dans le premier tome, au moment où les copains qui se sont réunis vont voir remonter justement tous leurs souvenirs. Mes souvenirs sont revenus. Quand on la déterrera, la Terre sera vachement en danger. Sommes-nous les adultes qu'on rêvait de devenir ? Si les enfants que nous étions voyaient les adultes que nous sommes, ils rigoleraient peut-être. C'est vraiment voilà, une bande dessinée qui est sur une bande de copains qui ont passé ensemble une enfance d'aventure et qui, alors qu'ils sont adultes, vont devoir affronter ensemble, malgré eux, les pires dangers que la Terre ait jamais connus. C'est pour moi l'un des, si ce n'est le meilleur polar en manga, voire plus, et c'est un extraordinaire récit de science-fiction et puis c'est une très très belle histoire humaine également. Voilà, je vous le conseille, 20th Century Boys en cours de réédition chez Panini en ce moment.
Eh ben, merci beaucoup, Simon. Pour revenir sur la nouvelle édition de Panini, petite particularité, c'est qu'en fait, il y a
les pages couleur d'origine.
Alors, il y a déjà ça, et il y a notamment une fin différente, en fait, un épilogue différent de 2-3 pages, qui en fait ressemble un peu plus à l'épilogue des 3 films, parce qu'il y a une adaptation de 3 films de Yukihiko Tsutsumi, de 2008 à 2009.
Il y avait un cinéma... Qui a passé
en France c'était
le 2, il y avait un cinéma qui passait à Lyon, j'ai pu aller le voir là-bas, et le troisième, il y a eu exactement un cinéma en France. Et puis c'était pas du tout à Lyon.
Et les films reprennent l'histoire complète ?
Alors, les films reprennent l'histoire complète, sachant qu'en gros, le premier tome est adapté dans le premier film, le dernier tome est adapté dans le dernier film, tous les tomes du milieu sont adaptés dans le film du milieu.
Ah oui, c'est
un peu tendax à suivre, honnêtement, le film du milieu. Après, l'adaptation est bonne. Après, c'est pas un film qui disposait de très très gros budget.
C'est le... Alors, j'étais assez étonné par rapport au standard actuel, un film de Marvel, c'est que cheap. Par contre, c'est à l'heure actuelle le film le plus cher produit au Japon. Ah oui. C'est 6 milliards de yens, donc 45 millions d'euros. Ah oui. Mais du coup, c'est vrai que 45 millions d'euros, c'est un film Marvel, on est facilement dans 100, voire plus. Ça reste à l'heure actuelle, quand même, mine de rien, le plus cher au Japon. Mais c'est vrai que moi, au départ, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un truc un peu cheap. Et non, vraiment, ils ont misé à fond. Pareil, okay. Sur les choix des acteurs, apparemment, il y avait vraiment eu des gros castings pour choisir. Et Urasawa était impliqué dans le casting des acteurs pour camper ses personnages.
Ouais, du coup, c'est du live action. C'est pas un anime.
Et puis l'avantage qu'il y a dans le film, j'en ai pas parlé, c'est que l'avantage c'est qu'il y a une bande son assez chouette. On a entre autres justement cette fameuse chanson. De T-Rex qui s'appelle 20th Century Boys et qui a donné son titre à la série et qui est en fait la première chanson de rock qui va être diffusée dans le lycée des héros, alors que justement le héros prend le pouvoir de la radio du lycée et pour la première fois diffuse la musique du futur pour lui, la vraie musique, le rock'n'roll.
Kurosawa est vraiment un passionné de musique et de rock. Je vous encourage vraiment à essayer de taper sur internet, alors taper Urasawa chante, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, quand il a reçu un titre honorifique à Angoulême et qu'il était venu, il a joué la musique que chante Kenji, et là, de l'entendre chanter cette musique qui est cool, parce qu'en plus c'est pas du tout un excellent chanteur, mais Kenji est pas censé être un excellent chanteur et ça reste c'est vraiment hyper beau, et de l'entendre chanter ça et après en relisant les passages où Kenji chante, c'est vraiment vraiment top.
Pour info, faut imaginer que 20th Century Boys, ça a été quand même un énorme événement au Japon, ça a été une des séries les plus suivies, les plus récompensées, et il y avait un énorme aussi marketing autour de tout ça, et je sais plus quel est le numéro, mais il y a eu un numéro au Japon du manga qui est paru accompagné justement d'une fausse cassette qui permettait justement d'écouter la chanson de Kenji, le héros, cette chanson qui fait Chalala, je vous la chanterai pas, et qui est l'un des fils conducteurs de cette série.
Si tous les arguments qu'on vous a dit et la chanson sur YouTube, ça vous suffit pas, quand même tenter l'expérience 20th Century Boy. Si vous voulez vous baser uniquement sur quelque chose de très factuel sur les prix, alors 20th Century Boy, ça en a raflé tout le temps. Hein. J'ai noté, il y a eu 7 prix. Il y a eu le prix Kodansha en 2001, Shogakukan en 2003, prix de la meilleure série à Angoulême en 2004, grand prix du Japon des Expo Awards en 2008, grand prix des associations d'auteurs japonais en 2008 aussi. Et bon, c'est aussi l'un des rares mangas à s'être fait deux Eisner Awards en 2011 et 2013.
Tout simplement.
Voilà. Et donc ça, c'est uniquement pour le travail du monsieur sur cette série. Hein, sur,
oui, parce qu'il y en a autant sur chacune de ces autres.
Parce que Urasawa, c'est quand même de la qualité sur pratiquement tout ce qu'il fait. Et même s'il est très connu pour ses thrillers, c'est quand même pas un auteur qui est limité à ça. C'est vrai que là, ils sont en train de réimprimer notamment les Yawara, qui un peu comme aussi les Happy sont. Alors même les Happy, il y a quand même un peu du thriller dessus, mais c'est un ton différent.
Urasawa, c'est un auteur qui est assez facile à lire pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire du manga. Parce que c'est quand même un auteur qui a un style, entre guillemets, assez européen.
Franco-belge, quasiment.
Ouais, voilà. Avec un...
Dans ses visages, on retrouverait presque le visage de certains de nos personnages classiques. Ouais, quoi, du coup,
tout à fait.
La grosseur de la collection fait un peu peur. Moi, je conseille très volontiers Plutôt, qui est beaucoup plus petit, qui permet de rentrer. Je conseille plutôt que vraiment, pour moi, c'est Plutôt que j'ai préféré.
Pour terminer la chronique de ce soir, alors je vais aussi présenter un manga, c'est Summer of Love de Keigo Shizo, sorti cette année, là, il y a quelques mois, chez le Lézard Noir. Alors, Keigo Shizo, c'est notamment un auteur qui est très jeune, né en 87, mais qui est fascinant, tous ses boulots, alors en tout cas tous ceux qui ont été édités en France, c'est à chaque fois Lézard Noir qui a eu la bonne idée de traduire ses bouquins. J'ai vu sur Manga News qu'il y avait quelques titres en VO qui n'avaient pas encore été traduits, alors j'espère qu'ils vont continuer et que ça sera aussi traduit. Summer of Love, qui raconte la vie de deux potes, Tayama et Sakurajima, et ces deux potes qui vivent dans un petit village un peu typique au Japon, au pied d'un volcan. Et en fait, toute leur vie change le jour où il y a ce fameux volcan qui rentre en éruption. Ça va transformer en fait toutes les sources souterraines en des sources chaudes,
Et ce petit village va devenir une attraction à touristes. Ces deux potes, quand ils leur dernier cycle d'études, voient leurs dernières années d'études radicalement changer, parce qu'en 3 ans, la ville change du tout au tout. Et globalement, ce manga est une sorte de bromance. Ça va être vraiment une histoire d'amitié assez forte entre ces deux personnages qui ont des caractères relativement différents. On va les voir se marrer ensemble, on va aussi voir des sortes de moments un peu plus de tension. Et dès le départ du manga, on sait que ça se passe sur leurs dernières années d'études. Ils se doutent qu'après, leurs chemins vont se séparer. Et globalement, ça, c'est des questions qui reviennent souvent dans les bouquins de Chizo. Mon premier manga publié, c'était l'auto-école du collège Moriyama, où c'est pareil. C'était en fait deux copains de lycée qui ne s'étaient pas vus depuis des années, et ils se revoient uniquement pour ces heures d'auto-école, et ils voient qu'ils ont pris des chemins assez différents. Et c'est aussi, mine de rien, ce qu'on retrouve peut-être dans sa série la plus célèbre à ce jour, c'était Tokyo Alien Bros, qui est un manga en 3 tomes, où là, on suit deux extraterrestres qui prennent l'apparence de jeunes humains. Autour d'eux, il y a des relations amicales, amoureuses qui se créent, et ça décortique à chaque fois qu'est-ce qui constitue la sève d'une relation. C'était tout pour ce soir.
J'espère que ça vous a plu.
On l'espère que ça vous a plu. En fait, c'était pas tout pour ce soir. Parce que ouais. Je suis un grand farceur. Et en fait,
il a choisi un deuxième bouquin. Oh non,
non, en fait, il y a une seconde surprise. Mais là, je vais avoir besoin de votre participation. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je vais vous demander à tous de fermer les yeux.
Ça met... Ah non, rien... pas non, ce genre non, de non, truc. Tu l'as déjà fait la dernière fois.
Il n'y a rien qui va mettre en danger votre intégrité physique ou psychique. J'ai besoin de votre participation, sinon ça va. Donc, alors là, à partir de ce moment-là, je veux que vous fermez les yeux. Vous ne les rouvrez pas tant qu'une autre personne, que l'ensemble des personnes ici, ne reprend la parole. En effet, les gars, il y a bien une surprise. La surprise, c'est que je ne pouvais pas terminer la chronique de ce soir, évidemment, vu qu'on parle d'amitié, sans parler du symbole de tout ça.
C'est vraiment là.
Ça va et toi?
Donc t'es rentré du coup.
J'arrive tout vu, je sors de l'avion.
Et du coup, Marie,
je vais en venir toi. Bonjour Alex. Salut. La surprise numéro 1 qui vient.
T'as une BD à nous présenter?
Bah ouais, même. Trop bien. J'ai écrit un truc.
C'est fou, je reviens pas. T'es là? T'es vraiment là?
Je suis vraiment là.
Et évidemment, Marianne qui fait partie des murs à la librairie, même si là, elle était en parenthèse au Canada. Elle a fait le tour vite fait, après elle est revenue, du coup. Donc c'est à toi, Marianne.
Eh ben, écoute, du coup, fallait que je trouve une BD canadienne. Voilà. Bref, c'était cet été-là, qui est sorti en 2014 chez Rue de Sèvres, qui est fait par Mariko et Gillian Tameki, qui sont cousines. Et c'est l'histoire de Rose et Windy, qui sont deux jeunes filles qui passent tous leurs étés ensemble, qui sont trop des BFF de l'été. Et cet été-là, elles vont un peu se prendre des routes différentes. Il y en a une qui a 13 ans et qui commence à entrer dans l'adolescence et qui s'intéresse plus tout à fait aux mêmes choses que celle qui a 11 ans et qui reste très enfant dans ses centres d'intérêt. Et voilà, c'est cette histoire d'amitié qui évolue, parce que l'amitié évolue dans le temps. Et voilà, et c'est une BD très chouette avec des très jolis dessins. Voilà.
C'était concis.
Je dirais bien qu'elle a été écrite dans l'avion et tout, mais c'est faux. Elle a été écrite il y a 10 minutes.
du coup, pour revenir vite fait sur l'album, c'était là. Donc ouais, Mariko Tamaki et Gillian Tamaki. Donc elles ont déjà bossé ensemble sur Skim en 2008, sorti chez Casterman. Dans Skim, c'est deux filles qui sont un peu plus vieilles, à peu près 17 ans, ça doit être quelque chose comme ça. Et elles font penser un petit peu au duo de copines qu'il y a dans Ghost World, de Klaus et Enid et Rebecca. C'est un peu deux filles qui toisent et qui snobent un peu tout le monde.
C'était la deuxième sur ma liste, Ghost World.
On vous le recommande, aussi super histoire d'amitié.
Et un très bon film également.
Et un très bon
avec
film.
Une super bande-son. Et Steve Buscemi.
et Steve Buscemi. Ou deux copines qui toisent un peu tout le monde, qui méprisent un peu gentiment, et c'est un peu comme ça qu'elles se sont connectées, quoi. Et en fait, il y en a une qui tombe amoureuse pour la première fois, un peu pour de vrai, et du coup, bah, ça parle de comment change un peu leur relation. Pour revenir aussi, alors après, du coup, sur le parcours des deux autrices, donc Mariko Tamaki, elle a fait pas mal de choses. Maintenant, elle est de plus en plus impliquée dans les grosses productions de comics. Elle a travaillé pour She-Hulk, Supergirl, Adventure Time, Tomb Raider, Harley Quinn. Par contre, elle continue un petit peu à faire des récits plus indés, toujours assez impliquée dans des questions relatives aux minorités ou en tout cas aux questions LGBTQ. Notamment, elle avait fait Mes ruptures avec Laura Dean, sortie chez Rue de Sèvres en 2020, qui avait notamment eu un Eisner Award en 2020. Et pour revenir sur Gillian Tamaki, la dessinatrice, qui est, alors, d'un point de vue personnel, qui est, je pense, une de mes autrices préférées, pas seulement sur le sol canadien, mais je trouve vraiment ce qu'elle fait, c'est assez, assez dingo. Donc, elle avait fait, du coup, Ski, mais et cet été-là avec sa cousine. Elle a fait aussi toute seule, sortie chez De Noël Graphique, Super Mutant Magic Academy, qui est vraiment une tuerie, qui est vraiment très très bien, qui aurait aussi pu être dans la sélection de ce soir, parce que évidemment ça parle d'amitié, ça parle aussi de relations qui se font et qui se défont, mais dans un univers un peu plus fantastique et plus loufoque. Donc voilà, là c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les intervenants et les intervenantes de ce soir, qu'ils soient surprises ou non. Ça sera sûrement la seule chronique durant l'été. Et voilà, jusque-là, passez un bon été. Mettez de la crème, lisez des BD et à plus.
Bye bye.
Ciao. Marianne, c'est bon.